Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du premier mouvement anti-vax. Donc le premier mouvement qui s'est opposé de façon un petit peu concertée à la pratique de la vaccination. Sur une période qui commence en 1794 et qui va se terminer plus ou moins, mourir de sa belle mort plus ou moins tout au long du début du XXe siècle. Et je vais me concentrer plus particulièrement sur la zone géographique anglophone, les États-Unis et un petit peu aussi la Grande-Bretagne. Pourquoi je me concentre sur cette zone-là et cette période-là? Parce que il y a une émergence très forte du mouvement, et ça prend une forme assez particulière aux États-Unis. Et par ailleurs, quand on le rapporte au mouvement anti-vaccination actuel, on comprend un peu mieux avec un éclairage historique et il y a pas mal d'échos entre les deux périodes. Alors, pour vous parler de l'opposition à la vaccination, je vais vous parler un petit peu de la vaccination et en particulier d'une maladie pour laquelle le vaccin a été inventé, qui est la variole. Plutôt qui était la variole, parce que justement, grâce à la vaccination, on a réussi à faire disparaître la variole à l'état naturel. Donc aujourd'hui, vous ne rencontrerez plus personne qui est malade de la variole. Les souches du virus ont été conservées. Oui, je sais, la variole, c'est terrible, ça fait hurler les chiens. C'est la rage aussi. Donc voilà, grâce à une campagne de vaccination mondiale qui a duré des années, on a réussi à éliminer la variole à l'état naturel. Et c'est plutôt cool parce que la variole, pour le coup, c'était une sacrée saleté. Vous la connaissez peut-être sous le nom de petite vérole. À ne pas confondre avec la grande vérole, qui est la syphilis, qui existe toujours, et qui pouvait se ressembler sur certains points, notamment au niveau des symptômes, mais qui, d'un point de vue virologique, n'a absolument rien à voir. Ceci dit, on reparlera de la syphilis un peu plus tard, c'est toujours fun. Alors, donc, la variole ou petite vérole, c'est une maladie infectieuse, éruptive, redoutable et immunisante due à un tas de virus. Ça, c'est le CHU de Montpellier qui le dit, c'est pas moi. Alors, la variole, on la connaît surtout par les cicatrices qu'elle laissait sur les survivants. C'est-à-dire que c'était une maladie qui, au départ, se manifestait un peu comme une très très méchante grippe. On était très malade pendant 2 à 4 jours et on commençait à avoir des pustules un peu partout, en particulier sur le visage et les avant-bras. Quand je disais pustules, je vous ai pas montré de photo de la variole et je vais pas vous en montrer parce que là on est en pleine digestion et que c'est. Oui, hein. Donc le taux de mortalité de la variole, ça dépendait des souches, ça dépendait de l'état du patient, mais on estime que c'était environ 20-30% des gens touchés par la variole qui en mouraient. Ça pouvait descendre à 10% sur certains cas et monter jusqu'à 70% dans d'autres. Le nombre de morts de la variole, parce qu'effectivement, comme c'était une maladie infectieuse, elle se répandait, ça faisait des grandes épidémies. On estime que vers la fin du 19e siècle en Europe, environ 400 000 personnes mouraient chaque année de la variole, rien qu'en Europe. Et le nombre total de victimes au XVIIIe siècle aurait été de 60 millions de morts pour une mortalité moyenne de 15%. Donc, on a essayé de combattre la variole assez tôt. On avait un processus qu'ils appelaient l'inoculation. C'est-à-dire qu'en gros, on prenait un bubon d'une personne qui avait survécu, séché. On en faisait de la poudre. On essayait d'atténuer un petit peu la force du truc, et on faisait une entaille dans le bras de quelqu'un, on utilisait une grosse aiguille, et on mettait la poudre du bubon, ce qui faisait que la personne tombait malade, mais souvent d'une forme un peu moins virulente. Par contre, bon, ça pouvait toujours la tuer, et ça risquait de contaminer d'autres personnes. C'était pas la meilleure solution, mais face aux épidémies de variole, c'était quand même potentiellement une meilleure solution. Et puis, on a inventé le vaccin, ou plutôt, on a découvert la vaccine, qui est la forme bovine de la variole. Alors, en anglais, la variole, c'est smallpox, petite vérole, et la vaccine, c'est coopox, la variole des vaches. Et tous ceux ici d'entre vous qui ont été à l'école primaire en France ont entendu parler de Pasteur comme le père de la vaccination. Si vous étiez allé au primaire dans une école anglaise ou américaine, on vous aurait parlé de Edward Jenner, donc qui est l'inventeur en fait de la technique de la vaccination. C'est-à-dire que Jenner, bon, c'est toujours un petit peu romancé, mais l'histoire veut qu'il ait remarqué que les jeunes vachères des campagnes anglaises étaient épargnées lors des épidémies de variole, parce qu'en fait, elles étaient en contact avec les vaches, donc elles étaient en contact avec la vaccine, la variole bovine, et en fait, elles avaient des... Bon, ça se voyait, hein. C'était la vaccine, c'est pas la vraie variole, c'est moins pire. Ça, c'est le bras d'une jeune vachère suédoise, il y a quelques années, et ça, c'est ce que ça donnait sur les pieds des vaches. Donc il a remarqué qu'en fait cette forme-là de la maladie protégeait de la forme humaine. Parce que l'avantage de la variole quand même, c'est que si on avait survécu à la première épidémie, on était immunisé à vie. Un peu comme la varicelle. Chickenpox, la varicelle, on en dit. Donc, alors, attendez, je m'enlève. Donc, en 1796, Jenner publie donc ses travaux sur la vaccination. En fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris des gamins. Il leur avait fait une incision sur le bras, il avait frotté du pus de pustule d'une jeune vachère. Et il avait attendu, bon, ils étaient tombés malades une petite semaine, ils avaient une petite pustule sur l'endroit de l'inoculation. Et puis, trois semaines plus tard, il leur avait fait une inoculation de variole et ils n'étaient pas tombés malades de la variole. Il a reproduit ça sur 13 gamins et donc il s'est rendu compte que ça fonctionnait assez bien. Heureusement pour les gamins. Après, si on n'essaye pas, hein, bon. Donc, cette technique était efficace, mais ne protégeait que 5 à 7 ans de la maladie. Et par ailleurs, elle vous rendait malade aussi au début, en forte fièvre pendant 2 à 4 semaines. Encore une fois, c'était mieux que les 20 à 30% de mortalité moyenne d'une épidémie de variole. Et par ailleurs, vous aviez aussi une cicatrice à vie, mais à un seul endroit, plutôt que partout sur le corps. Donc c'était mieux. Donc il y avait un certain nombre de complications qui étaient possibles, comme des nécroses cutanées, de l'eczéma, une encéphalite, myocardite, la mort. C'est toujours moins pire que la variole. Ceci dit, donc quand il a publié ses résultats, les gens avaient quand même à cœur de se protéger de la maladie, donc il y a pas mal de gens qui ont essayé, mais il y a aussi pas mal de gens qui ont commencé à protester pour un certain nombre de raisons. Déjà, bon, parce que c'était un peu dégoûtant et que les gens se méfiaient de la pratique, enfin, ça donnait pas franchement envie, en fait, si vous voulez. Ensuite, parce que c'était quand même aller contre la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'une épidémie de variole, c'était forcément envoyé par Dieu, puisqu'il est omnipotent. Et donc, vouloir se tourner vers les médecins pour se protéger d'une maladie envoyée par Dieu, c'était quand même un petit peu blasphématoire. Et puis, en plus, la vaccine, ou le vaccin, c'est donc issu d'un produit animal, la pustule de vache, ou la pustule de vachère qui vient des vaches. Donc du coup, les gens, ils avaient un petit peu peur de se faire inoculer de la vache, ils avaient un peu peur de se transformer en vache. Alors, hop, il passe. Ça, c'est Gina, qui passe son inoculation à ce garçon qui ne mourra pas de la variole. Voilà un des premiers dessins de presse anti-vaccin. Donc on voit les médecins avec des cornes du diable qui jettent des nouveau-nés dans la gueule d'une espèce de vache purulente, porteur de la pestilence, de la lèpre, tout ça. Et l'obélisque que vous voyez là, ce sont les noms des premiers opposants à la vaccination. Ils sont célébrés comme des héros puisqu'ils veulent sauver les nouveau-nés jetés en pâture par les médecins directement dans le cercueil. Alors voilà un petit peu ce que ça donnait selon les caricaturistes de l'époque, une séance de vaccination. Donc on leur faisait boire du puits de vache et puis vous voyez, ils leur poussaient des vaches sur le nez, des cornes, des sabots. Donc les gens étaient effectivement un petit peu effrayés, à raison, hein. Bon, tant est si bien que la première ligue anti-vaccin aux États-Unis se fonde à Boston en 1798, soit 2 ans après les publications de Jenner et 2 ans avant la première vaccination aux États-Unis. Donc 2 ans avant la vaccination, ils ont déjà un mouvement de vaccin. Donc, ceci dit, encore une fois, les épidémies de variole faisaient très peur aux gens, puisque tout le monde mourait. Et donc ils ont commencé à se faire vacciner, et tant est si bien qu'à un moment donné, dans certaines zones des pays, la couverture vaccinale était suffisamment élevée pour qu'on découvre un petit phénomène un peu intéressant, herd immunity en anglais, immunité de régal en français, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain pourcentage de la population protégée contre la maladie, en fait, le virus n'a plus assez d'hôtes où aller et elle finit par disparaître. Pour la variole, il faut que la couverture vaccinale soit d'à peu près 80%. Donc en dessous de 80%, les hôtes ne sont pas protégés. À partir de 80%, même si vous n'êtes pas vacciné, la vaccination des hôtes vous protège. Face à cette découverte, quand même plutôt intéressante pour lutter contre une épidémie mortelle, les gouvernements ont commencé à s'intéresser vraiment à la vaccination et à lancer des campagnes de vaccination, à encourager les gens à se faire vacciner. Alors, pour vous donner quelques dates, en Bavière en 1807, au Danemark en 1810, en Norvège en 1811, en Russie en 1812, en Suède en 1816, on rend la vaccination obligatoire. On rend la vaccination obligatoire en particulier pour les enfants et en particulier pour les enfants scolarisés. Donc quand on rend la vaccination obligatoire pour les enfants qui vont à l'école, c'est d'autant plus intéressant que l'école est obligatoire. Si l'école n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'il y a quand même toute une partie des enfants qui ne sont pas vaccinés. En 1853, le Parlement britannique donc fait un acte de Parlement pour rendre la vaccination obligatoire sur les enfants. En 1855, on a un décret du même genre au Massachusetts et en Virginie occidentale. Cependant, cette obligation vaccinale va très vite, si vous voulez, susciter un certain nombre de critiques. Parce que dans les villes où il y a une obligation vaccinale, des rumeurs commencent à circuler sur les effets secondaires des vaccins, sur la dangerosité du vaccin. Des rumeurs qui n'étaient pas complètement infondé non plus, puisque, encore une fois, le vaccin rendait systématiquement malade, et avec les conséquences que pouvait avoir une bonne grosse fièvre de 2 semaines dans les années 1800 en Angleterre, sur des enfants jeunes, et avec des complications potentielles qui pouvaient aller jusqu'à la mort. C'était encore une fois beaucoup plus intéressant que d'avoir des épidémies de variole dans une ville. Mais face au choix individuel de prendre le risque de se faire vacciner, de prendre le risque de faire vacciner son enfant en dehors d'une période d'épidémie, les gens se posaient quand même des questions. Et par ailleurs, l'obligation vaccinale qui était donc assortie d'une amende si on ne s'y pliait pas, suscitait aussi des oppositions puisque les gens ils se sentaient brimés. Alors, donc, dans le mouvement anti-vaccinal, on commence à publier un certain nombre de textes, un certain nombre de dessins hein, qui sont diffusés de façon très large. Et c'est un mouvement qui accompagne la démocratisation et le développement à la fois de l'imprimerie et des services postaux, c'est-à-dire qu'il rend de plus en plus facile de publier la littérature anti-vaccinale et de la diffuser, y compris de la diffuser dans d'autres pays. On retrouve un petit peu aujourd'hui un phénomène semblable avec Internet hein, qui permet aussi une diffusion très large de la rhétorique contre les vaccins. Alors, il va se passer aussi un truc assez intéressant, c'est-à-dire que la vaccination est tellement efficace qu'à un moment donné, elle nuit à la vaccination. On va prendre l'exemple de Stockholm. En 1872, la ville de Stockholm, qui a connu un gros mouvement anti-vaccinal, est très peu vaccinée. C'est-à-dire que le taux de vaccination dans la ville n'est que de 40%, alors qu'il est de 90% dans le reste de la Suède. Mais comme les gens sont bien vaccinés, il n'y a pas d'épidémie. Comme il n'y a pas d'épidémie, les gens n'ont plus peur de la variole. Comme les gens n'ont plus peur de la variole, ils ne sont pas vaccinés. Comme les gens ne sont pas vaccinés, il y a une épidémie de variole qui tue énormément de monde. Du coup, les gens, ils ont très peur. Ils se refont vacciner. Du coup, il n'y a plus d'épidémie de variole. Du coup, les gens oublient qu'il faut avoir peur de la variole. Ils continuent à avoir peur des vaccins. Du coup, ils ne sont plus vaccinés. Du coup, il y a une épidémie. Il a fallu deux très grosses épidémies à Stockholm pour que la couverture vaccinale reste à peu près stable dans la ville. Les Suédois prennent vite. Force de monter des mêmes billets, il vaut mieux. Alors, par ailleurs, on a carrément des émeutes anti-vaccinales, par exemple à Montréal ou à Rio, où les gens vont dans la rue avec des armes pour s'opposer aux campagnes de vaccination, avec notamment beaucoup de parents qui n'ont pas envie de faire vacciner leur enfant. Au Royaume-Uni, par exemple, la ville de Leicester devient un centre du mouvement anti-vaccinal avec des manifestations régulières. À tel point qu'en 1885, une manifestation de rue réunit environ entre 80 et 100 000 personnes, ce qui est beaucoup. Et le point d'orgue de la manifestation, c'est une effigie du docteur Edward Jenner, l'invention de la vaccination, pendue au milieu des rues pour protester donc contre le vaccin. Donc, face à cette opposition populaire à la vaccination, le Parlement britannique délègue une commission royale d'enquête sur la vaccination, qui est nommée en 1896. Et en 1896, elle dit « Non, la vaccination, c'est bien. Déjà, c'est efficace, ça sauve des vies. » Et les effets secondaires n'ont pas beaucoup d'importance face à l'efficacité globale des campagnes de vaccination. Mais face à l'opposition populaire, en 1898, pour le coup, il y a un nouvel acte de Parlement qui, face à l'obligation de vaccination des enfants, introduit une nouvelle notion juridique qui n'existait pas jusqu'à présent en droit, c'est l'objection de conscience. Les premiers objecteurs de conscience, ce n'est pas des gens qui ne voulaient pas faire le service militaire, c'est des parents qui, pour des raisons de croyance personnelle, ne voulaient pas faire vacciner leur enfant. Dans les 10 ans qui ont suivi l'introduction de cette clause de conscience, de cette objection de conscience, environ un quart des enfants nés en Grande-Bretagne ne se faisaient pas vacciner. C'est pas très très bon pour les épidémies de variole. Enfin, aussi, c'est plutôt efficace pour les épidémies de variole, pour les gens qui les subissent moins. Alors, sur la même période aux USA, c'est un petit peu plus compliqué, parce que autant le mouvement anti-vaccin avait commencé tôt et avait commencé fort, autant les épidémies de variole étant très violentes, au début, les gens continuaient à se faire vacciner. C'était pas quelque chose qui est très, très entendu. Le mouvement anti-vaccin aux États-Unis a repris beaucoup d'importance à partir des années 1870. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est les facteurs en fait qui ont poussé à la résurgence de ce mouvement. Il y avait des facteurs, disons, personnels et des facteurs liés aux politiques publiques globales de vaccination. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient opposés au principe même de la vaccination, qui trouvaient ça dangereux, qui trouvaient ça blasphématoire, qui trouvaient ça dégoûtant. Et il y avait des gens qui, au-delà de la question de la vaccination individuelle, trouvaient que l'obligation de se faire vacciner, c'était une atteinte très forte à leurs droits et à leur liberté. Et il y a eu une conjugaison de plusieurs phénomènes, notamment l'apparition d'une nouvelle souche de variole, dont on découvrira plus tard qu'en fait il s'agissait de deux souches de variole, mais variola minor, ou minor. C'est-à-dire une souche de variole beaucoup moins virulente, qui tuait moins, qui tuer toujours, mais beaucoup moins, et qui en plus, pour les survivants, qui étaient donc beaucoup plus nombreux, ne laissaient pas forcément autant de cicatrices, ni des cicatrices aussi marquées, aussi permanentes. Et du coup, les gens ont un petit peu oublié ce que c'était la variole, d'autant plus qu'ils étaient vaccinés, donc ils n'avaient plus de grosses épidémies, et puis, comme c'était une vaccination qu'il fallait renouveler tous les 5 à 7 ans, parce que c'était une vaccination qui n'était efficace que pendant 5 à 7 ans, à un moment donné, les gens ne se faisaient plus vacciner. Et quand ils tombaient malades, c'était pas très très grave. En plus, à l'époque, les États-Unis, c'était quand même un territoire extrêmement vaste, avec des gouvernements locaux qui avaient beaucoup de pouvoir. Hein, le gouvernement fédéral n'avait pas énormément d'influence, en tout cas absolument pas sur les questions de santé publique, qui était encore une notion de la notion de l'époque, d'ailleurs, la santé publique. Et donc, les gens ne se faisaient pas vacciner, et quand ils tombaient malades, on ne savait pas trop si c'était la variole, si c'était la varicelle. Et il s'est posé aussi une autre question, c'est que, en fait, ces souches de variole mineure, beaucoup moins virulentes, ont particulièrement circulé dans les États du Sud. Et les États du Sud, les États-Unis en 1870 sont marqués par quelque chose d'extrêmement fort, qui est le racisme et la ségrégation. Et donc, en fait, dans les villes du Sud, tout l'espace public était ségrégué, y compris les lieux de vie. Évidemment, les populations noires étaient dans des ghettos, donc avec un habitat insalubre, les gens passaient les uns sur les autres. Beaucoup de migration due au travail aussi, c'est-à-dire que c'était les premiers, quand une mine fermait ou quand la saison des récoltes était finie, à devoir se chercher un autre travail. Donc beaucoup de gens qui voyagent de ville en ville, qui vivent dans des conditions insalubres, les uns sur les autres. Donc beaucoup de gens malades. Malades de tout, y compris de la variole. Et du coup, c'est formé un sentiment dans la population majoritaire blanche aux États-Unis à cette époque, c'était que la variole, c'était une maladie de noirs. Et donc, c'était pas dangereux, puisque les seuls qui en souffraient, c'était les noirs. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des termes racistes qui étaient utilisés à l'époque pour désigner la variole. Je laisse ça à votre imagination. Mais, du coup, les autorités sanitaires des différentes villes et comtés aux États-Unis, en particulier dans le Sud, ont commencé à se relâcher énormément sur la question de la prévention et de la vaccination. Par ailleurs, il y avait aussi la question de l'argent. Puisque comme c'était une responsabilité locale que de faire de la prévention en matière de santé et de la vaccination, c'était du registre de la ville ou du comté de lever l'impôt pour payer les campagnes de vaccination. Et ils n'avaient pas vraiment envie. Surtout que quand il s'agissait de faire une campagne de vaccination obligatoire en cas d'épidémie, il fallait fournir des vaccins gratuits pour les gens qui n'avaient pas les moyens de se faire vacciner dans le privé. Donc évidemment, on réagissait tard. Alors, j'ai quelques études de cas un peu plus précises dont je ne vais pas vous parler parce que ce serait trop long. Mais ce qui se passait en fait quand il y avait une épidémie qui se déclenchait dans une grande ville du Sud, c'était qu'on commençait par mettre la maison où on avait détecté le cas, tout le bloc, tout le quartier, voire tout le ghetto, en quarantaine. Ça pouvait aller jusqu'à mettre la ville entière en quarantaine. Qu'est-ce que ça voulait dire, une ville entière ou un quartier entier en quarantaine? Ça voulait dire des gens armés, patrouillant les rues, des espaces publics fermés, interdiction d'entrée, interdiction de sortir. Et vaccination obligatoire. Qu'est-ce que ça voulait dire, la vaccination obligatoire? Ça voulait dire des gens qui débarquaient chez vous, en pleine nuit, comme ça ils étaient sûrs que tout le monde était à la maison, qui cassaient la porte si vous ne vouliez pas les laisser rentrer. Donc un médecin accompagné de plusieurs personnes armées, qui fouillait toute la maison, qui réunissait tous les habitants de la maison, qui regardait s'il n'y avait pas des signes de variole. S'il y avait des signes de variole chez le moindre habitant de la maison, c'était direction la pest house, la maladrie, on dirait en français. Des endroits un peu à l'écart, où on enfermait les gens qui étaient malades. Alors, on enfermait les gens qui avaient la variole, et on enfermait toutes les personnes qui étaient en contact avec les gens qui avaient la variole, dont on n'était pas sûr qu'ils avaient la variole, mais donc on les laissait en quarantaine le temps qu'ils puissent développer des symptômes. Alors normalement, on était censé pas les enfermer ensemble. C'est-à-dire que les gens qui avaient encore la variole, on n'était pas avec les gens dont on était certain qu'ils avaient la variole, sauf que s'ils ne l'avaient pas, ben, ils ne l'attrapent pas. Dans les faits, quand c'était sur les finances du comté qu'on faisait ces procédures-là, souvent on les laissait ensemble. Comme ça, les gens qui n'étaient pas malades pouvaient s'occuper des gens qui étaient malades avant de tomber eux-mêmes malades. Et les pest houses étaient aussi ségrégés. Les hôpitaux et les camps de quarantaine, tout ça, c'était séparé entre les blancs et les noirs. Il y avait évidemment beaucoup plus de probabilité de mourir dans un centre de quarantaine pour noirs que dans un centre de quarantaine pour blancs. D'autant plus que, autant on savait vacciner contre la variole, autant on ne savait pas la soigner, et que la meilleure façon de survivre quand vous étiez atteint de la variole, c'était en fait la qualité des soins qui vous étaient prodigués, c'est-à-dire vous maintenir au chaud, vous maintenir nourri, faire tomber votre fièvre, s'occuper de vous. Donc de fait, vous aviez beaucoup plus de chances de survivre à la variole si vous étiez à la maison avec un membre de votre famille qui s'occupait de vous, que si vous étiez dans les hôpitaux ou les camps de quarantaine locaux. Quand c'était le gouvernement fédéral qui s'en occupait, c'était un petit peu différent, il mettait plus de moyens, et là, il y avait bonne chance de survie. Il n'empêche que les gens, et en particulier donc les familles noires, cachaient, en fait, les gens malades, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils se fassent, enlever, en fait, avec porte de gens de ne pas les revoir. Ils les cachaient, ou ils s'enfuyaient, ils allaient dans une autre ville, du coup, c'est qu'il s'agit d'une épidémie. Bah, c'est pas une bonne idée. À titre individuel, c'était une bonne idée pour augmenter leur chance de survie, mais effectivement, d'un point de vue de la santé publique, bah, ça faisait encore plus de morts. Et donc, bon, on mettait la ville en quarantaine, on isolait les patients, soit chez eux, soit dans des camps d'internement, soit dans des hôpitaux, et on faisait de la vaccination obligatoire. Alors, ça pouvait prendre plusieurs formes. Dans les cas les plus violents, en particulier donc dans les ghettos noirs, on pouvait finir par forcer les gens à se faire vacciner sous la menace d'une arme. Donc on pointe un fusil vers eux et puis on leur dit bah, « vous faites vacciner ou je tire ». Bon, les gens choisissaient le vaccin. On pouvait les menacer d'aller en prison. Donc on leur disait au choix « ou vous acceptez de vous faire vacciner maintenant ou vous allez en prison », sachant que la loi imposait à tous les gens qui rentraient en prison de se faire vacciner. Donc si vous choisissiez la prison, vous étiez de toute façon vacciné. Et on désinfectait les maisons. Alors comment est-ce qu'on désinfectait les maisons? Déjà on brûlait tous les textiles et toute la literie, parce que ça c'était plein de germes. Et on fermait ou calfeutrait complètement la maison et on mettait du sulfure pendant plusieurs jours dans la maison pour détruire tous les virus. C'était assez efficace, sauf évidemment si votre maison n'était pas en bon état, avec des courants d'air et que c'était impossible à isoler, auquel cas on brûlait la maison. Ce qui était très efficace d'un point de vue de l'endiguement de l'épidémie, ce qui était un petit peu moins efficace d'un point de vue de l'acceptation par la population des mesures de prévention de la maladie. Et donc, on a eu beaucoup d'épidémies de variole à ce moment-là aux États-Unis, et ça a fait augmenter le sentiment anti-vaccin. C'est-à-dire qu'il y a une épidémie de variole qui se déclenche dans la ville, et là, il y a deux cas. Soit c'est une forme mineure, et dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent, la maladie n'est pas très très grave, et du coup, les gens sont extrêmement opposés à la vaccination, parce qu'ils se sentent beaucoup plus mis en danger par la vaccination elle-même et par les mesures coercitives pour imposer cette vaccination que par l'épidémie elle-même. Jusqu'au jour où là, il y a une épidémie de variole majeure, où la moitié des gens meurent, et dans ce cas-là, ils sont plutôt contents de se faire vacciner, et ils y vont volontairement. Il y a assez peu de gens qu'on est obligés de vacciner. Par ailleurs, la vaccination, à l'époque, ça génial, d'un point de vue individuel. C'est-à-dire que vous n'avez pas très envie d'aller vous faire vacciner. Sauf, effectivement, si vous avez vu que votre famille mourir de la variole. Mais la procédure elle-même n'est pas très enthousiasmante. Il y avait plusieurs formes de vaccination. Alors, vous vous souvenez de Jenner avec sa vache, hein, donc des fois on transportait la... Ça c'est en France. Des fois on transportait la vache. Comme ça on avait du pus de pustule frais à portée de main. Mais c'était pas très pratique parce que bon, les vaches, c'est pas rapide. Donc souvent ce qu'on faisait c'est qu'on transportait un être humain qui venait de se faire vacciner. Et donc du coup on utilisait le pus de son bras pour vacciner un autre être humain. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la grande vérole tout à l'heure? La syphilis? Ben oui. Parce que le problème, c'est qu'un humain contaminé, enfin, un humain avec la vaccination contre la variole, il est porteur possiblement d'autres choses. Donc on a eu des cas de contamination. Il y a notamment eu un épisode fameux pendant la guerre de Sécession où 5000 hommes de l'armée du général Lee, les confédérés, se sont fait vacciner par un docteur qui les a vaccinés, donc une jolie jeune femme qui venait se faire vacciner contre la variole avec la petite pustule. Mais il s'est trompé de pustule. Elle a pris une pustule de syphilis. 5000 hommes contaminés par la syphilis, incapables de participer à la bataille juste après. Et c'était le genre d'histoire qui, évidemment, non seulement marquait les esprits localement, mais qui était utilisé et réutilisé et diffusé, exagéré, répété. On avait aussi énormément de problèmes de contamination bactérienne. Parce que du coup, donc, soit on utilisait la vache, soit on utilisait la personne. Mais quand on a commencé à utiliser des gens, bon, bah, on avait des cas de transmission, tout ça, c'était très très cool. Du coup, il y a eu l'apparition aussi de meilleures techniques vaccinales. Hein, parce que donc, soit on avait le plus frais, soit on avait du plus séché, du coup, toujours avec une aiguille hein, que vous enfoncez dans la peau. Dans les deux cas, bien profondément dans le muscle pour vous contaminer. Et donc, à un moment donné, il s'est développé, alors, notamment en France, ils se sont dit, mais plutôt que de reprendre quelqu'un qui s'est fait vacciner à partir de quelqu'un qui s'est fait vacciner, on va faire des techniques plus naturelles. C'est toujours bien, le naturel. D'accord, en médecine, c'est un argument fameux encore maintenant. Donc du coup, on a repris des vaches, on cherchait des épidémies de vaccins qui avaient lieu naturellement dans les vaches, et du coup, ça faisait des lignées de vaches malades. Et donc, on a emporté comme ça des vaches françaises jusqu'aux États-Unis pour qu'il y ait les vaccins les plus frais et les plus naturels possibles avec de la vraie vaccine de vache. Sauf que les vaches, bah, c'est pas très, très propre. Je veux dire, ça prend pas trop de douche par jour et tout ça, quoi. Il y a d'autres choses sur les puits des vaches. Il y a plein de trucs qui traînent. Alors, ils ont fait hein, à l'époque des études sur ce qu'ils pouvaient trouver dans les vaccins qui étaient envoyés dans les différentes parties du pays. Donc, ils ont trouvé des streptocoques, plein de bactéries qui, de fait, étaient moins mortelles que la variole, généralement, mais qui rendaient quand même bien malade et qui, en plus, empêcher d'utiliser son bras correctement pendant une à deux semaines. Ça fait mal, une vaccination contre la variole. C'est pas mal. Et évidemment, parmi les gens qui protestaient contre la vaccination, il y avait notamment tous ceux qui étaient travailleurs manuels et qui utilisaient l'argument « Moi, j'ai besoin de mes deux bras pour ramener du pain pour ma famille et tout ça, parce que pas de sécurité sociale, pas d'arrêt de travail, pas de machin. » Donc, 3 jours de boulot perdu à cause de la douleur au bras par la vaccine, bah, ça faisait 3 jours de salaire en moins. Et pour la plupart des populations pauvres aux États-Unis à cette époque-là, ça pouvait être extrêmement délicat. Et puis, après, on a trouvé la glycérine. En fait, en Europe, on avait commencé à faire ça un petit peu avant. C'est-à-dire qu'on conservait les souches, enfin, le vaccin dans la glycérine. Qui avait l'avantage de conserver le vaccin, ce qui fait que c'était plus facile à distribuer tout ça. Et quand on laissait suffisamment de temps le vaccin dans la glycérine en fait avait pour effet de tuer les bactéries. Elle conservait le virus vivant, mais elle tuait les bactéries autour. Du coup, c'était des vaccins qui étaient beaucoup plus safe. Mais ça ne marchait pas avec tout. Et notamment, il y a eu plusieurs, ce qu'on appellerait aujourd'hui des scandales sanitaires. Notamment à Camden, je vous retrouverai la date, dans les années 1890, où en gros, il y a eu une campagne de vaccination parce qu'il y avait une épidémie de variole mineure, et des enfants ont commencé à mourir du tétanos. Et les parents ont accusé le vaccin de la variole de contenir du tétanos. Et en fait, du coup, tous les cas d'enfants qui mouraient du tétanos, ce qui est quand même relativement courant à l'époque, ont été reportés dans les journaux et tout ça, et les parents à chaque fois accusaient le vaccin. Mais les enquêteurs de l'époque n'ont pas vraiment réussi à déterminer, bon, a priori, ont plutôt réussi à déterminer que ce n'était pas le vaccin en question qui était en cause, parce que il y avait plusieurs fabricants, parce qu'ils n'avaient pas été administrés au même endroit. Sauf qu'il y avait eu un précédent l'année d'avant, sans lui, où là, c'était pas le vaccin contre la variole, c'était l'antitoxine pour la diphtérie. Et c'était une antitoxine pour la diphtérie qui avait été fabriquée dans des laboratoires municipaux à partir d'un cheval, parce que autant la vaccine c'est de la vache, la diphtérie c'est de le cheval. Et effectivement, le cheval qui a été utilisé pour produire l'antitoxine pour la diphtérie est mort du tétanos. Et 13 enfants aussi. Et là, on a retrouvé effectivement le tétanos dans l'antitoxine. Et il y a eu plusieurs histoires comme ça, alors certaines vérifiées, certaines absolument pas vérifiées, voire vérifiées fausses, mais ça a alimenté, si vous voulez, la peur de la vaccination. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas de régulation sur la fabrication des vaccins. Comme il n'y avait pas de régulation sur le diplôme médical. C'est-à-dire que, à un moment donné, tout le monde pouvait se dire médecin. Ça faisait partie de la liberté de tout à chacun. Et en fait, c'est une époque très intéressante puisque justement les sociétés médicales commencent à vouloir que la loi régule qui avait le droit de se faire appeler médecin ou quoi. Et donc il y a une très forte opposition à ce moment-là entre la médecine traditionnelle, regular, et les irréguliers, c'est-à-dire les herbalistes, enfin, ceux qui pratiquaient la chiropractie, l'homéopathie, la voyance, et qui était en fait dans une critique de façon générale des médicaments, et qui prétendait qu'une bonne hygiène de vie ou la volonté de la personne suffisait à les protéger des maladies. Et du coup, ils étaient contre la vaccination. Et en fait, il y a eu une espèce de convergence entre la lutte pour la régulation des licences médicales et la lutte contre les politiques de vaccination obligatoires. Sauf que ces pseudo-médecins, comme on dit maintenant, n'étaient pas les seuls à s'opposer aux politiques de vaccination obligatoire. Il y avait aussi des gens qui s'opposaient à la vaccination obligatoire par désir de liberté et d'égalité. Il y a une très forte convergence entre le mouvement anti-vaccin et le mouvement pour l'abolition de l'esclavage, par exemple. Beaucoup des grands abolitionnistes, des grandes abolitionnistes étaient plutôt sensibles au discours anti-vaccin. Et après l'abolition de l'esclavage, le mouvement anti-vaccin se réclamait en partie de cette lignée des abolitionnistes. Ils se vivaient comme étant le même courant de philosophique et de réflexion. D'autant plus que, effectivement, dans les politiques de santé publique qui étaient menées au niveau local et qui étaient d'ailleurs soutenues au niveau fédéral, c'était des politiques de prévention raciste. On visait spécifiquement les Noirs et ils n'étaient pas traités de la même façon en cas d'épidémie. Donc, il y avait un certain nombre de convergences. Ah oui, c'est une anecdote un petit peu rigolote. Il y a un médecin de Boston qui était au Board of Health de Boston, diplômé de Harvard, donc un médecin, qui en novembre 1901, le docteur Samuel Durgin, il avait vu beaucoup de gens mourir de la variole. Il était responsable de la politique de santé publique à Boston. Il était très pro-vaccination. Et il avait un ennemi, c'était les anti-vaccins. Et à un moment donné, il a géré une épidémie de variole dans sa ville. Il met les gens en quarantaine. Il ne fait pas encore de vaccination obligatoire parce qu'il arrive plus ou moins à convaincre les gens de se faire vacciner, tout ça. C'est une épidémie qui n'est pas très virulente. Mais, donc il arrive à avoir suffisamment de gens qui vont se faire vacciner. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un tract, anonyme qui circule dans les rues de Boston, qui rappelle, qui est adressé spécifiquement aux parents, qui rappelle aux parents que donc, la vaccination c'est dangereux. Hein. Que n'importe quel enfant peut être déclaré inapte à la vaccination par un médecin. S'il a un certificat médical d'un médecin qui dit qu'il ne veut pas se faire vacciner, il est exempté de l'obligation vaccinale. Et dans le tract, non seulement il rappelle cet aspect de la loi, qui avait été donc gagné par les anti-vaccins, mais il donne aussi le nom et l'adresse de quelqu'un qui peut fournir des listes de médecins dans la région de Boston qui font des certificats de complaisance pour empêcher votre enfant d'être vacciné. Et ça, notre cher docteur Durbin, ça ne lui plaît pas du tout. Lui, il veut que les gens se fassent vacciner. Il sait à quel point c'est important et il sait à quel point la variole c'est dangereux. Donc, il va publier dans le Boston Globe un défi. Il va mettre au défi n'importe quel opposant à la vaccination de venir visiter l'hôpital de quarantaine avec lui et de mettre, de tester son propre remède contre la vaccination. Alors, il est fort probable qu'il pense que personne ne va répondre à son défi. Hein. Il sait que les gens qui font ça, la plupart sont sincères, beaucoup sont des arnaqueurs, mais ils ne sont pas fous, ils n'ont pas envie de se suicider. Sauf que il avait sous-estimé la fierté humaine. Et le docteur Emmanuel Pfeiffer répond à son défi. Alors lui, c'était un anti-vac extrêmement connu, qui disait énormément de, enfin, qui faisait beaucoup de discours publics pour s'opposer à la vaccination. Et lui, donc, il pensait que le spiritualisme, l'effort physique, et un mode de vie sain. Il était très en faveur du mode de vie sain, permettait de se protéger de la variole. Mais donc, il a testé le truc. Il a écrit au docteur Darwin, il a dit, écoutez, moi, je vais aller visiter votre hôpital de quarantaine. J'ai jamais été vaccinée depuis mes 7 ans. J'y vais quoi. Il y est allé. On lui a fait visiter l'hôpital de quarantaine. Il est allé sniffer dans la bouche des malades. Puis il est sorti. Le directeur de la santé publique de Boston l'a fait suivre par des inspecteurs pendant les 2 semaines de la période d'incubation de la variole, et au bout des 2 semaines, il a disparu. Ils ont mis 5 jours à le retrouver. En 5 jours, il avait eu le temps de faire quelques bornes, d'aller se mettre à la campagne dans la maison où vivaient sa femme et ses enfants, en partageant 2 carrioles avec des gens, en retrouvant ses filles qui étaient allées à l'école. Et quand on l'a retrouvé dans sa ferme, il était au dernier stade de la variole. Et ils ont mis toute la ville en quarantaine. Ses voisins lui en ont voulu. Il a survécu. Il a survécu. Et alors, il s'est lancé une forte controverse entre lui et le médecin qui l'avait mis au défi. Le médecin qui l'avait mis au défi lui a dit, mais vous voyez bien, espèce de taré, que si vous ne faites pas vacciner et que vous allez vous exposer à la variole, vous tombez malade, alors que tous les médecins qui, eux, se sont déjà vaccinés et qui travaillent à l'hôpital ne sont pas tombés malades. Et lui, il a dit oui, peut-être. Mais regardez, mon mode de vie sain m'a permis de survivre à la variole. Bon, j'aurais encore une chose à vous dire, mais sur cette petite anecdote, je vais très vite faire ma conclusion. Donc les politiques de santé publique extrêmement agressives, extrêmement coercitives, à un moment donné, on s'est bien rendu compte que c'était pas forcément la meilleure stratégie. On a mis plutôt l'accent sur la prévention, sur l'explication, sur l'éducation à la santé. On a fait aussi un... Oui, pendant ce temps-là, les anti-vax, eux, ont quand même gagné quelques batailles. Mais la plus importante, ça a été la décision de la Cour suprême sur Johnson versus Massachusetts, qui a entériné, donc de façon constitutionnelle, le droit pour un État, au nom de la préservation de la santé publique, d'imposer des procédures médicales aux gens. Et dans les années 20, au moment où le mouvement anti-vaccin avait quasiment disparu, ce sont les premiers eugénistes américains qui se sont servis de ce précédent juridique pour justifier leur pratique de stérilisation et notamment de stérilisation des malades mentaux. Puisque au nom de la préservation de la santé publique, qui là était la santé publique raciale finalement, on pouvait pratiquer une politique eugéniste. Alors, il se trouve que le mouvement anti-vaccin, bah, c'est un peu comme variola minor. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est fait beaucoup moins virulent. On l'a cru endormi, on l'a cru plus très très dangereux. Parce que, par ailleurs, dans la plupart des pays, on avait réussi à imposer des législations imposant la vaccination. On avait réussi à combattre l'épidémie de polio. Les USA ont été traversés par des très violentes épidémies de poliomyélite dans les années 1900-1925. Et la poliomyélite touchant particulièrement les enfants, quand le vaccin contre la polio a été inventé, découvert en 1954, là, pour le coup, on a réussi à répondre très très bien le vaccin contre la polio à travers des explications, parce qu'effectivement, les gens voulaient protéger leurs enfants. Hein, pour la même raison qu'ils étaient anti-vax pour protéger leurs enfants, ils étaient pro-vaccin contre la polio pour protéger leurs enfants. Mais le mouvement anti-vax était toujours là, et il s'est réveillé sous une forme beaucoup plus virulente et mortelle dans les années 98, avec Andrew Wakefield. Et on est reparti pour un tour un petit peu comme la variole.